Merci au groupe Louange. J'invite maintenant Priscille à me rejoindre. Priscille qui, pour la seconde fois déjà, va nous apporter le message de ce jour. Le titre, elle en parlera bien sûr beaucoup plus elle-même, c'est « Initiative ». Et ça fait partie de la série « Ruth ». L'amour fidèle et surabondant de Dieu, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je vais prier. Oui, Seigneur, nous te demandons d'inspirer Priscille, de lui transmettre le message et les paroles que tu veux que nous entendions ce matin. Seigneur, nous voulons te prier pour que nos cœurs soient ouverts à ce que tu veux partager avec nous ce matin. Et nous nous plaçons devant toi en te remettant Priscille pour ce message. Amen.
Bonjour. Alors oui, le titre de ce message, c'est « Initiative ». Qu'est-ce que c'est avoir une initiative ? Ok. Avoir une initiative, c'est avoir une idée en tête, et puis c'est décider d'entreprendre quelque chose pour permettre la réalisation concrète de l'idée qu'on avait en tête. Alors aujourd'hui, on accueille nos catéchumènes, et je suis sûre qu'ils auraient pas mal de choses à nous apprendre sur ce que c'est d'avoir une initiative. Aujourd'hui aussi, nous allons lire Ruth 3, Et nous allons nous rendre compte que Naomi, elle a quelque chose à nous apprendre aussi sur ce qu'est avoir une initiative. Mais ce n'est pas juste n'importe quelle initiative dans le cas de Ruth. C'est une initiative qui est faite en collaboration avec Dieu. Dans ce chapitre, Naomi, elle entreprend de marier sa belle-fille. Alors je lis le chapitre 3, tout le chapitre 3. Ruth 3. Sa belle-mère Naomi lui dit : « Ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu sois heureuse. Eh bien, Boaz, l'homme dont tu es, a accompagné les servantes. N'est-il pas notre parent ? Or, il doit procéder cette nuit au tri de l'orge qui est dans l'aire de battage. Lave-toi et parfume-toi. Puis remets tes habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui, jusqu'à ce qu'il ait fini de manger et de boire. Quand il ira se coucher, observe l'endroit où il se couche. Ensuite, va découvrir ses pieds et te coucher. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. » Ruth lui répondit, « Je ferai tout ce que tu as dit. » Elle descendit à l'aire de battage, et fit tout ce qu'avait ordonné sa belle-mère. Boaz mangea et but, et son cœur était joyeux. Il alla se coucher au bout du tas de gerbes. Ruth vint alors tout doucement, découvrit ses pieds et se coucha. Au milieu de la nuit, Boaz eut un frisson. Il se pencha et il vit une femme couchée à ses pieds. Il dit, « Qui es-tu ? » Elle répondit, « Je suis Ruth, ta servante. » « Étends le pan de ton manteau sur ta servante, car tu as droit de rachat. » Il dit, « Sois bénie de l'Éternel, ma fille. Ce dernier trait témoigne encore plus en ta faveur que le premier, car tu n'as pas recherché des jeunes gens pauvres ou riches. Maintenant, ma fille, n'aie pas peur. Je ferai pour toi tout ce que tu diras, car tout le monde chez nous sait que tu es une femme de valeur. » Il est bien vrai que j'ai droit de rachat, mais il existe un autre parent, plus proche que moi, qui a ce droit. Passe la nuit ici. Demain, s'il veut exercer ce droit envers toi, c'est bien qu'il le fasse, mais s'il ne lui plaît pas de l'exercer envers toi, je le ferai. Moi, l'Éternel est vivant. Reste couché jusqu'au matin. » Elle resta couchée à ses pieds jusqu'au matin, et se leva avant qu'on puisse se reconnaître l'un l'autre. Boaz dit qu'on ne sache pas que cette femme est entrée dans l'aire de battage. Et il ajouta, « Donne le manteau qui est sur toi, tiens-le. » Elle le tint, et il compta 6 mesures d'orge qu'il chargea sur elle, puis il entra dans la ville. Ruth revint chez sa belle-mère, et Naomi dit, « Est-ce toi, ma fille ?» Ruth lui raconta tout ce que cet homme avait fait pour elle. Elle dit, « Il m'a donné ces 6 mesures d'orge en disant, « Tu ne retourneras pas les mains vides vers ta belle-mère. » Naomi dit, « Ma fille, reste tranquille jusqu'à ce que tu saches comment finira l'affaire, car cet homme ne se donnera pas de repos avant de l'avoir réglé aujourd'hui. » Dans la première partie de ce message, je désire faire un lien entre deux choses. D'une part, l'amour fidèle et surabondant de Dieu, dont nous avons déjà parlé les deux premières fois où nous avons parlé de Ruth. Et d'autre part, le fait que Naomi, elle est capable de prendre des initiatives. Dans le premier chapitre de Ruth, on l'a vu complètement désespérée. Et puis, dans le deuxième chapitre, on l'a vu retrouver confiance en la bonté de Dieu. Elle a retrouvé confiance dans le « Hesed » de Dieu, ce mot que vous commencez à bien connaître maintenant et qui parle de l'amour immérité, fidèle, généreux, surabondant de Dieu. On a vu aussi dans ce deuxième chapitre que Naomi a retrouvé confiance en Dieu, mais que ça ne s'est pas fait sur un coup de baguette magique. Cela s'est fait très concrètement par l'action de Boaz et de Ruth qui ont incarné cet amour de Dieu auprès d'elle. Et suite à ça, Naomi, elle a retrouvé confiance. Elle s'est mise à louer Dieu. Alors on a loué Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas juste chanter, louer Dieu, mais c'est reconnaître profondément que Dieu est présent, qu'il agit, qu'il est bon, et comme le chant le disait, qu'il est grand. C'est avoir foi en lui, et c'est avoir cette foi qui nous remplit de joie, à tel point que notre cœur déborde et qu'on a envie de le louer. Oui, Dieu, tu es grand. Oui, Dieu, tu es bon. Oui, Dieu, c'est en toi que je mets ma confiance. Et vous savez ce qui s'est passé? Quand Naomi, elle a retrouvé cette confiance en Dieu, cette louange en Dieu, cette joie de savoir que Dieu était là pour elle, dans sa vie, elle a repris courage. Et avec ce courage qu'elle a retrouvé, elle a retrouvé aussi un esprit d'initiative. En fait, on peut dire que, en même temps que Naomi, elle a compris que Dieu l'aimait d'un amour fidèle et surabondant, elle a retrouvé qui elle était véritablement elle, une femme créée par Dieu pour prendre des initiatives. Et vous tous qui êtes ici, vous, jeunes, moins jeunes, si vous avez plein d'idées en tête de choses que vous voulez faire, c'est parce que c'est Dieu qui vous a créé comme ça. J'aimerais ajouter quelque chose. Dieu ne vous a pas créé seulement pour avoir des initiatives de tout plein de choses que vous voulez faire, mais en plus, il vous a créé pour que ces initiatives que vous avez, vous puissiez les faire en collaboration avec lui. Vous prenez la décision de devenir chef au flambeau, c'est en collaboration avec Dieu que vous le faites. Et un sujet d'actualité dans notre église, vous prenez la décision ou non d'agrandir votre bâtiment d'église, c'est en collaboration avec Dieu que vous le faites. Pourquoi collaborer avec Dieu? Dans quel but? Alors je reviens à Naomi. Naomi collabore avec Dieu pour le bien de Ruth. Parce qu'à l'époque où l'histoire est écrite, c'est très difficile d'être une veuve. Et la meilleure chose qu'on puisse faire pour une jeune veuve, c'est de lui permettre de se remarier. Naomi, elle prend une initiative où elle collabore avec Dieu pour le bien de quelqu'un. Et nous, nous avons été créés pour prendre des initiatives en collaboration avec Dieu et pour que ces initiatives amènent l'amour de Dieu autour de nous, pour que son royaume continue à s'établir sur cette terre. C'est pour ça fondamentalement que nous avons été créés. Et dans le livre de Ruth, c'est comme si on voyait qu'il y avait trois étapes dans cette collaboration avec Dieu. Trois étapes dont je pense que nous pouvons nous inspirer. Alors juste une précision, dans le livre de Ruth, ces trois étapes, elles arrivent dans un ordre chronologique, elles sont assez distinctes les unes des autres. Et je ne pense pas que ce soit forcément que ces étapes doivent toujours être distinctes. Je pense même qu'elles peuvent se chevaucher. Mais c'est juste pour vous donner une idée. L'étape 1, elle se passe au chapitre 1. C'est la prière que Naomi prononce pour Ruth et pour son autre belle-fille, Orpa. Elle prie pour que ces deux belles-filles trouvent du repos dans la maison d'un mari. Au milieu même de son désespoir, elle fait cette prière. La deuxième étape, c'est l'étape qui se passe dans le chapitre 2. C'est l'étape du discernement, c'est-à-dire l'étape où Naomi voit ce que Dieu est en train de faire, comment il conduit les choses, comment il est en train de répondre à sa prière. Naomi, pour elle, elle distingue que c'est Dieu qui les a amenés dans le champ de Boaz, qui a amené Ruth dans le champ de Boaz. Elle distingue que Boaz, c'est peut-être bien ce mari potentiel qu'il faut pour sa belle-fille. Ce n'est pas toujours facile de voir l'action de Dieu. Ce n'est pas facile parce que des fois, même si on croit en lui, on n'est pas forcément convaincu que c'est vraiment qu'il est là et qu'il vraiment il a envie de répondre à nos prières. Apprendre à voir Dieu, c'est quelque chose qui se fait souvent en communauté. Apprendre à voir Dieu, apprendre à voir ce que fait Dieu dans nos vies, c'est tout un apprentissage. Aussi parce que Dieu, il est Dieu, il nous dépasse complètement. Il ne se fait pas toujours voir, il ne se fait pas toujours entendre de la même manière. Alors, comme dans le cas de Naomi et de Ruth, il peut y avoir un événement qui se passe, on se dit « Oh, ça c'est Dieu qui est là !» Il peut y avoir un verset de la Bible qui nous explose à la figure. Il peut y avoir une parole de quelqu'un, une impression, une image, tellement de choses différentes. Ce qui est sûr, c'est que Dieu y se révèle. J'en viens à la troisième étape. Alors, après avoir prié, après avoir discerné l'action de Dieu qui est là et qui agit, il y a la réalisation que nous, nous sommes appelés à jouer une part active dans l'action de Dieu. On voit cette réalisation chez Naomi dans le premier verset du chapitre 3. Plusieurs traductions traduisent ça comme une question. « Ma fille, ne te chercherai-je pas du repos afin que tu sois heureuse ?»« Ah, mais c'est peut-être à moi de faire ça. La prière que j'ai faite au chapitre 1, peut-être que j'ai une part à jouer là-dedans. » Elle a prié pour que Ruth trouve un mari. Elle a distingué l'action de Dieu avec cet homme Boaz chez qui Ruth a été conduite. Et maintenant, elle se rend compte que c'est à elle de jouer. J'aimerais terminer cette première partie en disant ceci. Dans notre collaboration avec Dieu, il y a toutes sortes de manières de ne pas respecter ces trois étapes dont je viens de parler. Prier, discerner, agir. Il y a d'abord les gens qui ne font que prier, mais qui ne cherchent pas à discerner et qui n'ouvrent pas les yeux sur ce que Dieu fait. Il y a ensuite les gens qui prient et qui discernent, mais qui attendent que Dieu fasse tout. C'est une confiance en Dieu qui ignore que, fondamentalement, ils ont été créés pour entrer en collaboration avec lui, pour avoir des initiatives. Il y a aussi ceux qui prennent des initiatives, mais sans prier, sans discerner. Et ce qui en ressort, ça ne s'appelle pas une collaboration avec Dieu, ça s'appelle une initiative personnelle. Et il y a finalement ceux qui prient et qui foncent avant d'avoir discerné l'action de Dieu. Puis là aussi, au risque d'ignorer le fait que la grâce de Dieu, elle est bien au-dessus de ce schéma en trois parties, on peut quand même dire que l'initiative, elle reste davantage une initiative personnelle qu'une collaboration avec Dieu. Alors, dans cette église, nous avons le projet de construire un bâtiment. Et je pense que ça peut être intéressant de réfléchir à ce projet à la lumière de ces trois étapes. Prier, discerner, agir. Une initiative qui est en collaboration avec Dieu, c'est une initiative faite dans un esprit de louange qui le reconnaît comme présent, agissant, comme le Dieu de l'amour fidèle et surabondant, comme le Dieu qui agit et qui nous guide de manière précise dans nos vies, comme le Dieu qui nous appelle à faire quelque chose, nous aussi, pour amener son amour autour de nous. J'en viens à la deuxième partie de ce message. Alors, dans cette deuxième partie, on va regarder concrètement ce que Naomi fait pour que son initiative devienne la réalité. Dans cette deuxième partie, je vais poser une question que le texte ne pose pas et auquel le texte ne répond pas. La question est la suivante. Maintenant que nous avons défini que Naomi est entrée en collaboration avec Dieu dans son initiative de marier Ruth, est-ce que la manière dont elle l'a fait était optimale? Est-ce que c'était vraiment la meilleure manière de s'y prendre? Alors, la première chose qu'il nous faut dire, c'est que ce texte est assez étrange pour les lecteurs que nous sommes, lecteurs du 21e siècle. Il y a des clés culturelles qui nous manquent pour pleinement comprendre ce qui se passe dans ce chapitre. Mais il y a quand même des choses qu'on peut affirmer. La première, c'est que ce que Naomi demande à Ruth de faire, c'est assez extraordinaire pour l'époque. Elle demande à une femme, en plus une femme pauvre, une femme étrangère, de s'approcher d'un homme juif, riche, et puissant, pour lui demander de la marier. Et ce qui est sûr, c'est qu'à l'époque, les choses ne se passaient pas comme ça. La deuxième chose qu'on peut affirmer sans trop grand risque d'erreur, c'est que Naomi, elle élabore une véritable stratégie pour permettre à Ruth de demander la main de Boaz. Elle lui dit pas juste d'aller toquer à sa porte et sur le pas de la porte de lui dire « Est-ce que tu veux bien me marier ?» Elle a réfléchi à tout un stratagème. Un peu comme Jules, qui a 13 ans, réfléchit à toute une stratégie hyper bien ficelée pour essayer que ses parents lui achètent l'iPhone 7. Il sait bien que s'il se rend vers ses parents puis qu'il leur demande juste « Est-ce que vous m'achetez l'iPhone 7 ?» il n'aura pas beaucoup de chances de l'obtenir. Donc, il réfléchit à des arguments solides pour que sa demande ait une chance. C'est la même chose pour Naomi. Elle a réfléchi à toute une stratégie pour donner les meilleures chances à Ruth. Alors, Ruth, elle est priée de se laver, de se parfumer, de s'habiller. Et jusque-là, c'est rien d'exceptionnel. Si on va faire la demande en mariage à quelqu'un, en général, on ne le fait pas en habit de travail. En général, on se prépare avec soin. Mais ce n'est pas tout. Naomi, elle désire profiter de la situation la plus favorable possible pour mettre son plan à exécution. Elle désire profiter d'un grand jour de la vie de l'agriculteur qu'est Boaz, le jour où il récolte et puis où il célèbre le fruit de son labeur. Qu'est-ce qui se passe ce jour-là? Il y a tout l'orge qui est récolté, et puis qui est amené dans un endroit en dehors de la ville où on procède à son battage, de telle manière à séparer la balle du grain qui l'entoure. Et cela se fait à la nuit tombante pour la simple raison que c'est à ce moment-là qu'il y a un vent qui se lève et dont on peut tirer avantage. Parce que le vent va emporter la balle et le grain qui est plus lourd, lui, va retomber à l'aire de battage. Et puis ensuite, on célèbre la récolte, on mange et on boit. Et puis on dort directement au pied de sa récolte, ce soir-là, pour la protéger des voleurs et des animaux sauvages. Alors vous pouvez imaginer la satisfaction, la joie, la gaieté de Boaz alors qu'il s'endort près de sa récolte. La récolte a été bonne, il a bien mangé, il a bien bu. Naomi, elle est ainsi sûre que Ruth va le trouver quand il est de bonne disposition. Et à un niveau stratégique, c'est bien réfléchi. Tout comme Jules réfléchit un bon moment pour aborder ses parents, un moment où ses parents sont de bonne humeur, il a de meilleures chances. La stratégie va plus loin encore, la stratégie de Naomi. Naomi, elle demande à Ruth d'attendre que Boaz s'endorme pour aller lui découvrir ses pieds et attendre que le froid qui remonte depuis la plante des pieds jusqu'à plus haut le réveille pour qu'il découvre au clair de lune qui ? Une belle femme endormie à ses pieds. Alors, vous pouvez imaginer l'état de Boaz quand il se réveille. On pourrait même dire plus, l'état hormonal de Boaz quand il se réveille. La stratégie de Naomi, elle s'appuie pas seulement sur un moment favorable, mais elle tape aussi probablement sur le pôle de la séduction, sur le fait que Ruth est une jeune femme belle et séduisante. Alors, heureusement pour Ruth, le texte le montre très vite, Boaz est un homme bon, dont le but n'est pas de coucher avec Ruth, mais dont le but premier est de la marier et de la sauver, elle et sa belle-mère, de la misère d'être veuve. La question est maintenant la suivante. Est-ce que toute cette stratégie de Naomi était nécessaire? Est-ce que Dieu avait vraiment besoin de tout ça pour que Ruth trouve un mari en Boaz? Alors, comme je l'ai dit plus tôt, le texte ne répond pas à cette question. Parce que là, et j'en arrive à la troisième partie de ce message, la providence de Dieu, son action, c'est aussi sa grâce qui agit bien au-delà de nos stratégies plus ou moins farfelues ou boiteuses. Nous sommes et nous serons toujours des collaborateurs imparfaits. Et pourtant, Dieu continuera encore et toujours de vouloir collaborer avec nous. Parce que la grâce de Dieu dans nos vies, ce n'est pas seulement qu'il nous sauve de tout le mal qu'on a fait, ce n'est pas seulement qu'il nous sauve de tout ce qui n'est pas beau dans notre vie, toute notre misère, tout ce qui pue, tout ce dont on a honte. Et ça, c'est déjà une part énorme de la grâce de Dieu. Mais la grâce de Dieu dans nos vies, c'est aussi son envie d'être présent dans nos vies, avec son amour fidèle, comme on le voit qu'il a été présent dans la vie de Naomi et de Ruth. Et puis la grâce de Dieu dans nos vies, c'est aussi son envie de collaborer avec nous, alors que nous sommes des collaborateurs imparfaits. Et vous savez, une des raisons pour laquelle nous sommes des collaborateurs imparfaits, il y en a d'autres, mais celle-ci, je pense qu'elle est fondamentale. C'est parce qu'il nous est très difficile de pleinement faire confiance à Dieu. Naomi, on la voit déjà faire une grande confiance à Dieu. Elle voit Boaz et elle se dit ça doit être le mari pour Ruth. Et elle prend des risques assez énormes pour que sa belle-fille fasse la demande en mariage. Mais peut-être qu'elle ne faisait pas suffisamment confiance à Dieu pour renoncer à tout son stratagème concernant la demande en mariage. Est-ce que Dieu s'en est offusqué? Est-ce qu'il a jugé que la manière dont Naomi collaborait avec lui comme indigne? La manière de Dieu agit, dont Dieu agit, est caractérisée par sa grâce. Et sa grâce, elle ne se mérite pas par des initiatives parfaites, parce que menées par des hommes et des femmes dont la confiance est parfaite et entière en Dieu. La grâce de Dieu, elle est non seulement toujours première dans nos vies, c'est cette grâce qui est allée chercher Naomi dans sa misère, qui l'a relevée et qui lui a redonné un esprit d'initiative. Et c'est cette grâce aujourd'hui qui nous cherche, chacun de nous, où nous en sommes, et notre communauté, là où elle en est, et qui nous fait avancer. La grâce de Dieu, elle est aussi toujours dernière dans nos vies. Elle n'a pas dépendu de la stratégie de Naomi, et cette grâce, elle ne dépend pas de ce que nous faisons et de ce que nous sommes. Et d'ailleurs, on va le voir en décembre, à quel point la grâce de Dieu a continué à exploser pour Ruth et Naomi. J'aimerais conclure. Chers amis, si Dieu veut notre collaboration, il sait par contre à qui il s'adresse. Des hommes, des femmes, des jeunes qui sont en route sur un chemin où ils apprennent à lui faire confiance. Des hommes, des femmes, des jeunes dont les actions expriment à la fois la confiance qu'ils font en Dieu et à la fois le manque de confiance qu'ils lui font. La grâce de Dieu, c'est son amour surabondant et fidèle qui nous accompagne dans notre cheminement de foi. La grâce de Dieu, c'est sa volonté d'entrer en collaboration avec les collaborateurs imparfaits que nous sommes pour amener son amour dans ce monde. La grâce de Dieu, c'est son amour surabondant et fidèle qui collabore avec des collaborateurs imparfaits et qui, ce faisant, les fait avancer dans une confiance toujours plus grande en lui. Amen.